bien voilà, c'est sur ce titre de cet instrumental d'Indochine, donc la Bouddha Affaire de 1988, que nous allons nous quitter. Pour samedi souvenir, nous nous retrouverons samedi prochain. Et n'oubliez pas, si vous aimez la chanson française et l'accordéon, je vous retrouve demain matin sur cette même antenne avec la Miss Chantal. Voilà, de 9h à midi pour Dimanche Bonheur. Salut tout de suite, Dimanche Bonheur. Tout de suite, Polémix, pardon.
Possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Quand une classe dirigeante est mise en cause par les dirigés, bien sûr, elle se tourne vers ses appuis extérieurs, puisqu'elle n'a plus d'appuis intérieurs. Une classe dominante qui est mise en question à l'intérieur par une fraction importante de son peuple a tendance à faire appel à des soutiens étrangers. Dans le cas français, l'exemple, c'est évidemment l'aristocratie confrontée à la révolution bourgeoise à soutien populaire en 1789, modèle évidemment qui a été éprouvé en France et qui n'a cessé d'être déployé. La situation de défaite où se trouve aujourd'hui le peuple français ne veut pas dire du tout que les classes dirigeantes le considèrent comme une quantité négligeable. Le peuple français continue à les obséder. Et il est logique qu'elle soit obsédée par un peuple français dont elle perçoit le degré de lassitude.
En France, c'est comme ça au moins depuis la révolution bourgeoise de 1789. Quand les possédants ont peur, peur notamment de leurs compatriotes les plus pauvres, quand le populo remue un peu trop, depuis deux siècles, les dominants qui craignent de ne plus dominer vont pleurer dans des bottes étrangères. Des bottes prussiennes, allemandes, américaines ou les deux. Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Nous voici en 1870 pour ce nouvel épisode de notre série autour de la Commune de Paris. Avec aujourd'hui l'historienne Annie Lacroix-Riss, professeure émérite à l'Université Paris 7, pour notamment dresser un parallèle entre l'étrange défaite de 1870 et le choix de la défaite de 1940. Bonjour Annie Lacroix-Riss.
Bonjour à tous.
Dès 1789, une partie de l'aristocratie émigre outre-Rhin dans l'espoir de reprendre la France avec appui de l'étranger. Dans les années 1920-1930, la grande bourgeoisie française œuvre avec succès à ce que l'historien Marc Bloch a appelé l'étrange défaite de 1940. Il y a eu complot et trahison, et vous l'avez démontré, archives impitoyables à l'appui, dans votre ouvrage « Le choix de la défaite », Annie Lacroix-Riss. Mais ce n'est pas la première fois que la grande bourgeoisie complote avec les Allemands ou les Prussiens contre le peuple français. En 1870, les armées prussiennes gagnent un peu facilement contre les armées françaises de Napoléon III. Il y a eu trahison dans l'état-major français commandé par le maréchal Bazaine, qui laisse l'armée française se faire tailler en pièces par les casques à pointe. Car pour Bazaine, et ce bien avant la Commune, le danger n'est pas l'envahisseur étranger. Le danger, c'est la classe ouvrière française qui revendique un peu trop. Et on le verra avec la Commune de Paris un an plus tard, en 1871, commune écrasée dans le sang par la Troisième République française, avec l'aide des Prussiens. La lignée entre la trahison de Bazaine et celle, 69 ans plus tard, de Pétain, est tout à fait évidente et relève d'une logique de lutte des classes. Dans les médias et les manuels scolaires, il est de bon ton de célébrer le dictateur sanguinaire que fut Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui comme hier, il convient aussi de gémir sur l'abolition des privilèges féodaux du 4 août ou de ululer sur la terreur et le vilain Robespierre. Vilain Robespierre. Il est par contre tout à fait inconvenant d'évoquer les 72 jours de la Commune de Paris et les plus de 20 000 victimes que fit sa répression commise par les Versaillais. La Commune est un événement de dimension nationale, internationale, populaire, patriotique, révolutionnaire et donc tabou aujourd'hui comme hier. La bourgeoisie au pouvoir depuis plus de 2 siècles et qui a toujours peur de la Commune continue à escamoter son souvenir et son histoire qui nous auront au moins laissé une chanson, Le temps des cerises, dont les paroles ont été ici remaniées.
Vous regretterez le beau temps des crises, quand pauvres sans pain et riches gavés, nous serons aux prises. Les drapeaux de mars flotteront aux brises, les drapeaux vermeils sur qui vous bavez. Vous regretterez le beau temps des crises, quand viendra le peuple en haut des pavés. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, le vil renégat et l'accapareur enverront de grise. Les politiciens auront des surprises, les Judas au ventre auront la terreur. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, grondera partout la rue en fureur. Profitez-en bien du beau temps des crises, où le peuple jeûne et pense en rêvant aux terres promises. Quand on viendra-tu fondre les banquises? Ô grand soleil rouge, ô soleil levant. Profitez-en bien du beau temps des crises où le peuple veille et s'en va rêvant.
C'est avec cette version virulente du temps des cerises qu'on retrouve l'historienne Annie Lacroix-Risse pour évoquer cette étrange défaite de 1870 qui ressemble bigrement à celle de 1940. Alors en résumé, pour renforcer son pouvoir qui s'effrite, Napoléon III pense malin de déclarer à la Prusse une guerre que la France va perdre lamentablement, comme en 40. Or, comme la trahison de Pétain, la trahison de Bazaine ne fait aucun doute à Annie Lacroix-Risse.
C'est quelque chose d'une clarté aveuglante, complètement masquée par l'historiographie dominante. En 2016, moi, j'ai participé à un colloque organisé par l'Association des Amis d'Henri Guillemin sur la Commune et sur ce qui avait précédé la Commune, en l'occurrence la défaite. Henri Guillemin, il avait travaillé sur la Commune spécifiquement et en particulier la guerre de 1870. Alors, je signale à tout le monde ce très intéressant ouvrage qui s'appelle « Cette curieuse guerre de 70, Thiers, Trochu, Bazaine ». C'est un petit bijou qui montre d'ailleurs que on peut, avec des archives même pas extraordinaires, avec toute une série de documents d'époque, en les confrontant, Guillemin a fait un travail énorme. On peut, en effet, analyser, je dirais, ce que toutes les personnes cultivées, en particulier d'ailleurs dans les milieux militaires, savaient. La défaite de 1870 est une défaite choisie. Que ça se heurte à une espèce de consensus violent d'ailleurs, hein, méchant, de ce que j'appelle l'historiographie dominante ne fait aucun doute. Il est en particulier tout à fait caractéristique qu'un historien, Stéphane Audouin-Rousseau, il a fait une histoire de la guerre de 1870, d'une violence négationniste sur le rôle de Bazaine extraordinaire. Hein. Je donne un exemple de la manière dont on peut, dans l'historiographie dominante, balayer sous le tapis les choses gênantes. Il dit à un moment, Bazaine avait sans doute songé à la capitulation assez tôt. Ah bon ? Bah, il capitule quand même déjà dès octobre 1870. Resté fidèle à l'Empire, n'ayant jamais reconnu formellement le gouvernement de la Défense nationale, il pensait pouvoir jouer un rôle politique grâce à l'armée sous ses ordres et espérait être en mesure de rétablir l'ordre social en même temps que le régime impérial dans un pays qu'il croyait en proie à l'anarchie. Cette solution n'était d'ailleurs pas récusée par certains officiers de l'armée. Faut qu'on soit sérieux. La question de la trahison de Bazaine se pose. Et la trahison, ça n'est pas une affaire de complotisme. La trahison, elle est définie juridiquement. Or, l'intelligence avec l'ennemi, elle a été démontrée sur le champ. Bazaine a fait l'objet d'un procès qui a été une véritable farce en 1874, où il a d'ailleurs été reconnu comme coupable. Nous disposons des dossiers de cette intelligence avec l'ennemi, puisque Bazaine et les siens discutent avec les chefs prussiens et expliquent dans quelles conditions on pourrait passer à corps. On le sait, je vais donner un exemple, que reprend Guillemin. Il décrit longuement le conseil de guerre du 10 octobre 1870. Ces messieurs se mettent d'accord sur le fait qu'en effet, voilà, il faut se résoudre à la capitulation. Bazaine remet à Boyer, qui est en contact direct avec le prince Frédéric Charles de Prusse, l'ennemi militaire de la France, remet ce message. 1874, il est rendu public. Au moment où la société est menacée par l'attitude qu'a prise un parti violent. Parti violent, ce sont les progressistes issus du mouvement ouvrier et patriotes qui ont résisté depuis le début à la capitulation, à Paris et ailleurs. Au moment où la société est menacée par l'attitude qu'a prise un parti violent et dont les tendances ne sauraient aboutir à une solution que cherchent les bons esprits. Hein, il y a les gens très bien, il y a les bons esprits. Le maréchal commandant l'armée du Rhin, c'est-à-dire Bazaine, s'inspirant du désir qu'il a de sauver son pays et de le préserver de ses propres excès, interroge sa conscience et se demande si l'armée placée sous ses ordres n'est pas destinée à devenir le palladium de la société, le guide. On est en octobre. La question militaire est jugée. Les armées allemandes sont victorieuses et ne sauraient attacher un grand prix au stérile triomphe qu'elles obtiendraient en dissolvant la seule force qui puisse aujourd'hui maîtriser l'anarchie dans notre malheureux pays et assurer à la France et à l'Europe. L'Europe ! Comme disait Napoléon III, quand on parle d'Europe, on parle de Prusse. Et assurer à la France et à l'Europe un calme nouveau, devenu si nécessaire après les violentes commotions qui viennent de les agiter. On n'est pas dans la Commune. La Commune, elle démarre le 18 mars 1871. On est 6 mois avant la Commune. Qu'on écoute bien ce que je dis. L'intervention d'une armée étrangère, même victorieuse, dans les affaires d'un pays aussi impressionnable que la France, dans une capitale aussi nerveuse que Paris, pourrait manquer le but, surexciter les esprits et amener des malheurs incalculables. L'action d'une armée française, ayant encore bon moral, et qui, après avoir loyalement combattu l'armée allemande, à la conscience d'avoir su conquérir l'estime de ses adversaires, pèserait d'un poids immense dans les circonstances actuelles. Elle rétablirait l'ordre et protégerait la société dont les intérêts sont communs avec ceux de l'Europe. Elle donnerait à l'Allemagne, par l'effet de cette même action, une garantie des gages qu'elle pourrait avoir à réclamer dans le présent. Enfin, elle contribuerait à l'avènement d'un pouvoir régulier et légal, avec lequel les relations de toute nature pourraient être reprises sans secousse et naturellement. Ça, c'est la note que Bazaine confie le 10 octobre 1870 aux bons soins de son collaborateur, le général Boyer, chargé d'en discuter avec les Prussiens. Comme le dit très bien Guillemin, le conseil de guerre du 10 octobre 1870 a calmement opté en faveur d'un acte qualifié crime par la loi. Que tous autant que nous sommes là, nous réfléchissions bien à ce texte qui semble avoir été écrit par Pétain, et que nous réfléchissions bien à la notoriété qu'avait ce texte chez les hauts militaires. Raymond Brugère, le seul ambassadeur de France qui ait démissionné contre la capitulation française en 1940, il était ambassadeur à Belgrade. Il a démissionné de son poste au moment où a été annoncée l'opération bidon qui était la demande des conditions d'armistice, qui était en fait l'astuce qu'avait trouvé le radical Sautant et l'avait proposé à Pétain pour qu'on fasse croire qu'on demandait les conditions de l'armistice. En fait, c'était la décision de capitulation. Eh bien, ce grand ambassadeur a fait un ouvrage, Veni, Vidi, Vici. Bon, le titre n'est pas formidable, mais l'ouvrage est formidable. Pourquoi ? Parce qu'il s'ouvre sur ce que c'est que l'esprit de capitulation. Et il montre toute une série d'éléments à l'appui. À quel point Pétain, c'est Bazaine, c'est tout à fait remarquable. Ce Brugère est un exemple rarissime de ce que peut être un personnage très cultivé, d'origine bourgeoise, qui n'est pas aveuglé par les préjugés de classe. Ça arrive, hein. Je demande à tous de voir ce que la culture sur 1870 peut apporter à l'analyse de la défaite de 1940, car le livre de Brugère est essentiellement un livre d'analyse de la trahison de Pétain. Voilà ce qui est aujourd'hui interdit de ces jours par ce que j'appelle l'historiographie dominante, et les communards et les patriotes de 1870 sont présentés comme des excessifs, comme des gens qui ne comprennent rien et qui veulent le bazar. Eh bien, voilà où nous en sommes, alors que depuis 1874 et plus encore depuis les années 1940, nous n'ignorons rien de la similitude entre la trahison de Bazaine, la trahison de Pétain. Je rappelle que les communistes, sous l'occupation, ont passé leur temps à traiter Pétain de Bazaine.
Comme le traître Pétain, le traître Bazaine est l'homme de la grande bourgeoisie qui a pris le pouvoir en 1789. Alors pourquoi, en 1870, les industriels et financiers français souhaitent-ils la défaite de la France et surtout la fin du Second Empire de Napoléon III ? Bien, depuis 1860, devant la montée en puissance de mouvements populaires et ouvriers, Napoléon III a dû lâcher un peu de lest. Mais pour la bourgeoisie qui craint pour sa propriété, liberté, égalité, propriété, ces concessions de Napoléon III sont des signes de faiblesse vis-à-vis des classes laborieuses et donc dangereuses, Annie Lacroix-Risse.
Il y a d'une part, évidemment, ce qui peut apparaître comme des concessions intolérables à la première émergence du droit syndical, la tentation de séduire des représentants syndicaux compréhensifs, pas radicaux, anti-marxistes. Le décret sur le syndicalisme de 1864, devenu loi, et puis devant les difficultés induites par la crise, et alors que se développe un mouvement ouvrier en France, c'est une donnée évidemment que nous n'analysons plus, puisque l'histoire sociale est devenue une espèce de déficience structurelle de l'étude sociale aujourd'hui, qui fait qu'on ignore que la décennie 1860, dans un contexte de crise du capitalisme, bon, c'est pas encore la crise de 1873, mais c'est une crise sévère, dans ce contexte se développe une combativité ouvrière, d'ailleurs, dont la Commune, 18 mars 1871, et la liquidation définitive du 28 mai 1871, une combativité dont cette période, évidemment, montre toute la force, puisque c'est ça la Commune. La Commune a deux dimensions. Bien sûr, cette dimension patriotique, et puis cette dimension sociale, cette dimension de classe. Donc, oui, il y a mécontentement patronal, il y a mécontentement des élites à l'égard des concessions qu'a dû faire le régime, mais bien entendu, après avoir fait les fanfarons et lancé la France dans la guerre, ceux qui l'ont lancé dans la guerre préfèrent d'autant plus régler des comptes que finalement le modèle prussien, le modèle allemand leur semble bénéfique. Je conseille à tout le monde d'aller lire l'ouvrage de François Bloch-Lainé, Profession fonctionnaire, c'est-à-dire d'un grand banquier, hein, homme politique, qui a soutenu l'évolution droitière de la France d'après-guerre. Dans cet ouvrage tout à fait incongru dans son cursus, non seulement de haut fonctionnaire, mais devenu le président du Crédit Lyonnais, selon la bonne formule habituelle qui consistait en ce que des inspecteurs des finances formés par l'École libre des sciences politiques, puis à l'époque suivante par l'Institut d'études politiques, passassent un certain temps dans des fonctions éminentes au ministère des finances avant de passer à la banque privée, puisque c'est le cursus. On nous explique aujourd'hui que la banque privée règle tout. Avant, ce n'était pas la même chose. Quand on n'ignore pas l'histoire de France, on ne peut pas le raconter, parce que ça dure depuis le 19e siècle. Donc, voilà ce que Bloch-Lainé, dans Profession fonctionnaire de 1976, où il dit quelques vérités, parce que Giscard vient de le virer du Crédit Lyonnais. Et alors, quand les gens sont mécontents, quelquefois, ils disent des vérités qu'ils ont cachées pendant des décennies. Giscard d'Estaing, il avait un papa et un tonton synarque et fasciste.
Et comme Mitterrand, papa et tonton Giscard décorés de la Francisque par Pétain.
Bon, et qu'est-ce qu'il écrit, Bloch-Lainé ? Alors, une fois vaincus, les Français, hein, beaucoup d'entre les privilégiés, les membres de la partie la plus en vue de la classe dirigeante, hein, moi j'appelle ça le capital financier, ont pris sur le peuple la revanche des échecs politiques que ces suffrages leur avaient infligés 20 ans durant. Toute cette période où j'explique qu'ils ont essayé de faire voter les Français dans un sens, en dépensant d'ailleurs pas mal d'argent, mais finalement, ça n'a pas évolué exactement comme ils voulaient avec la crise, tout ça. Qu'on écoute bien la phrase suivante. Ils ont trouvé leur consolation, voire leur bonheur, dans les malheurs de la patrie, renouant avec l'opportunisme cynique des grands bourgeois de 1815, 1830, 1852, 1871. C'est pas tel hystérique ou complotiste, c'est Bloch-Lainé, un grand banquier, un inspecteur des finances, qui dit ça en 1976. Tous ceux qui se sont un minimum informés aux révélations de la résistance à partir de 43-44, savait en 1944-1945 à quel point la situation de 1940 était une situation semblable à celle de 1870. Ceux qui ont lu non seulement l'étrange défaite de Marc Bloch, publiée en 1946, en 1990, l'ensemble des articles que Marc Bloch avait publiés dans une revue clandestine jusqu'à la veille de son assassinat d'ailleurs, puisque son dernier article, qui est même le plus frappant, de mars 1944, approfondissait tout ce qu'il avait compris, c'est-à-dire que la France avait subi une trahison. Ça relève pas du complotisme, ça relève de l'analyse des archives. S'il y a des gens qui doutent, qu'ils lisent les souvenirs de Monzi, radical, passé à homme de droite, il servait la banque Worms en fait depuis la Première Guerre mondiale, et qui a fait, comme beaucoup de vichistes en 1940-41, une masse d'aveux, parce que dans le triomphe de leur trahison nationale, de leur complot, je dirais antisocial, de leur complot contre la classe ouvrière qu'ils avaient combattu pendant tout l'entre-deux-guerres, il a fait un ouvrage de 1941, Les ci-devant. Il a fait des aveux sur ses relations avec Pétain en 1939-1940, à l'époque où Pétain, ambassadeur auprès de Franco, vient régulièrement faire ses petites tournées à Paris, puisque Daladier et Bonnet lui ont laissé un an pour préparer son putsch et son régime contre la République, et il raconte que en mai 1940, Pétain, lors d'un de ses voyages, vient le voir dans son ministère des Travaux publics, où son action contre la sécurité nationale a été constante, hein, et vient lui dire, autour du 10 mai, ils auront besoin de moi et les affaires tourneront comme prévu. Il l'a avoué d'ailleurs en même temps à des Espagnols. On a d'autres témoignages des années 1940 sur l'affaire. C'est une trahison nationale sur laquelle on n'a pas plus de doute que la trahison de Bazaine. Et nous sommes dans une conjoncture historique tellement bloquée que n'importe qui, archives à l'appui, parce que tout de même, pour le choix de la défaite et les travaux suivants, des archives à l'appui, j'en ai prodigué, qui archives à l'appui démontre ce complot à la fois contre la République et contre la sécurité nationale, eh bien, la publication de leur travail a fait l'objet soit d'un enterrement, soit, ce qui allait ensemble, d'une contestation permanente qui nous explique qu'il faut bien être complotiste et bêta pour expliquer qu'il y a eu un complot de la synarchie, un refus des militaires de combattre, etc. De la haute hiérarchie militaire. Voilà. Le réel n'a pas eu lieu. D'ailleurs, c'est dans cette période de folie qu'a été développée l'Uchronie. C'est pas une discipline scientifique. Il est de mode de se poser la question de savoir ce qui aurait pu se passer.
L'Uchronie, avec des si, refaire une histoire qui n'a pas eu lieu. Exercice d'imagination notamment pratiqué avec enthousiasme par Christian Ingrao du CNRS.
Voilà, on a développé ce concept de l'Uchronie pour ne pas voir ce qui s'était passé, sachant que nous disposions de l'ensemble des données archivistiques, même si on peut tous les jours en découvrir d'autres, hein. Moi, j'ai passé des années à découvrir des nouvelles archives en me disant je pourrais remplacer les archives du choix de la défaite ou de Dominique à Vichy par les archives que j'ai découvertes dans les années suivantes. Je dirais, quand on est historien comme moi, on se fait juste plaisir quand on découvre des nouvelles, c'est tout.
Comment se fait-il que, quand elles se sentent menacées par le peuple français, les classes dirigeantes françaises vont chercher de l'aide outre-Rhin, puis ensuite outre-Atlantique, après la Seconde Guerre mondiale? Alors, est-ce que ça veut dire que les capitalistes français n'ont pas confiance en eux-mêmes, au point de systématiquement remettre leur destin entre des mains étrangères?
Il y a un pays pour lequel la question posée n'est jamais mise en doute. C'est l'Italie. Il n'y a pas de capitalisme italien sans impérialisme allemand. j'ai fait une étude comparée des deux impérialismes faibles, italien et français. Le modèle qui s'applique à l'Italie est un modèle qui s'applique à la France. D'abord, il faut rappeler une chose. Une classe dominante qui est mise en question à l'intérieur par une fraction importante de son peuple a tendance à faire appel à des soutiens étrangers. Dans le cas français, l'exemple, l'aristocratie, confrontée à la révolution bourgeoise à soutien populaire en 1789 et dont l'émigration commence dès 1790. Les Vindel qui émigrent en 1790 sont les ancêtres des Vindel qui se partagent à partir de la défaite de 1870 entre partis restant dans le nouveau Reichsland et partis qui demeurent dans la Lorraine restée française. Je sais que ça contrarie certains collègues. Ça mène en 1940 à ce qui conduit les Vindel, et notamment François de Vindel, dans une lettre qui n'est pas assez célèbre du 3 juillet 1940, a proposé au chef de l'occupation, Westphal, la collaboration de la maison Vindel, conformément à une collaboration qui a été constante. Quand une classe dirigeante est mise en cause par les dirigés, comment, bien sûr, elle se tourne vers ses appuis extérieurs, puisqu'elle n'a plus d'appuis intérieurs. Et donc, le modèle de l'aristocratie de 1790, année suivante, l'émigration noble, elle se poursuit même après la défaite de Robespierre, souvent. Eh bien, le modèle est un modèle, évidemment, qui a été éprouvé en France et qui n'a cessé d'être déployé. En France, on se trouve avec un impérialisme français qui a l'air très fort, mais qui est faible. Il partage avec les classes dirigeantes italiennes cette extrême point de faiblesse qui n'est pas celui, par exemple, ni des classes dirigeantes allemandes, ni des classes dirigeantes américaines, qui est le soutien très insuffisant du peuple qui ne lui assure pas un soutien sûr, qui, dans les périodes de crise, évidemment, est de plus en plus flageolant.
Quand la bourgeoisie française se sent menacée, elle peut donc aller chercher l'aide des Allemands. Elle a même pu appeler des Russes à l'aide. C'était en 1815, contre le retour de Napoléon.
1815 ? L'appel à l'étranger pour venir occuper Paris. Alors c'est intéressant, dans cette période de russophobie qui nous caractérise, je rappelle que 1815, c'est le seul moment en France, très désagréable, où nous ayons vu des Cosaques chez nous. Nous n'avons plus jamais eu d'agresseurs russes. Par contre, nous avons eu des agresseurs allemands.
Donc la seule fois où la France a été envahie par les Russes, c'était à la demande des bourgeois.
Voilà, de notre bourgeoisie alliée à ses anciens ennemis aristocratiques avec lesquels la réconciliation était désormais mûre et qui n'a cessé de mûrir depuis 1815.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir rejoué la carte allemande jusqu'en 1944, la grande bourgeoisie s'est placée sous protection des USA et donc à nouveau sous protection allemande. Car tout ça se passe dans le cadre de notre merveilleuse Union européenne dirigée par des financiers élus par personne. Les élites françaises ont choisi un double joug étranger, américano-allemand, Annie Lacroix-Riss.
Ce que j'ai montré, c'est cette caractéristique de l'impérialisme faible français qui consiste à s'allier avec deux impérialismes dominants, d'abord ce qui est logique, parce qu'il est antérieur et qu'il est voisin, l'impérialisme allemand dont le développement est consubstantiel et simultané de la phase impérialiste. Le capitalisme allemand se construit vraiment à la phase impérialiste ouverte par la crise de 1873. Et à partir de la crise de 1873, l'Allemagne, considérablement enrichie, il faut le dire, personne n'en parle de ça, considérablement enrichie par les 5 milliards de francs hors de la punition française de la défaite, car ça a été un élément considérable du développement du capitalisme allemand. que cet énorme droit qui a été payé rubis sur l'ongle par la France, occupation à l'appui, donc l'Allemagne devient un partenaire essentiel de la bourgeoisie française. Et cette Allemagne, qui est l'impérialisme dominant en Europe, il veut tout, sans partage. Car l'impérialisme allemand, c'est pas seulement à l'Est qui se développe, c'est à l'Ouest. Ce qui est obéré et caché chez nous, parce que le gros argument des hitlériens porte-parole de la grande bourgeoisie, c'est vous inquiétez pas, on va tomber sur les Russes, ça tombe mieux parce que tout le monde sera content, hein. Les Français et les Anglais n'ont pas réussi à s'en débarrasser, nous nous en débarrasserons, et la petite musique douce à laquelle personne ne croit dans l'appareil d'État, cette petite musique douce qui est servie aux Français pour les aider à se transformer en couards aveugles, c'est « ne vous inquiétez pas, nous allons tomber sur le dos des Russes, mais il ne se passera rien sur le front occidental. » Il se passera aussi quelque chose sur le front occidental. Donc, fin du XIXe siècle, lien durable avec l'impérialisme allemand. De plus en plus, à partir des années 80-90, l'impérialisme allemand, nous, avec le jeune impérialisme américain, dont on peut considérer qu'il se déploie à partir de 1890, c'est-à-dire le moment où les États-Unis se mettent à assurer leur expansion partout. Donc, des liens essentiels se nouent entre impérialisme allemand et impérialisme américain. Et pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis deviennent une puissance européenne. Le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas le vainqueur militaire, ce sont les États-Unis. Hunsiger, en juillet 1941, dit « Les États-Unis ont été le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, ils seront le vainqueur, toute catégorie, de la guerre en cours, nous devrons nous plier à leur desiderata pendant 50 ans. » On est à 80 et ça dure encore. Et ça m'a l'air un peu compromis, mais voilà la caractéristique depuis une période entre les années 1870-80 et les années de Première Guerre mondiale. Depuis lors, ces deux impérialismes, aux ambitions monstrueuses, comme tout impérialisme dominant, trouvent que tout est à eux. Pendant longtemps, les États-Unis ont été l'impérialisme super-dominant et ils semblent le demeurer, quoiqu'ils ne le soient plus, mais les États-Unis ont entretenu avec la France des relations qui sont également très marquées par les relations avec l'impérialisme allemand, pour deux raisons. Car non seulement l'impérialisme français, longtemps terrifié par sa population, a noué avec l'impérialisme allemand des relations spécifiques économique, charbonnière, sidérurgique, chimique, etc. Mais les relations franco-allemandes sont très fortement marquées par les relations américano-allemandes qui, après chaque guerre, s'arrangent avec l'impérialisme allemand qui en prend quand même un petit coup parce que les Américains ont gagné et après 1918 et après 1945 et énormément gagné. Mais la France est donc soumise au double joug permanent germano-américain. Un joug spécifiquement franco-allemand et un joug germano-américain parce que les États-Unis ont le moyen d'imposer à la France des mesures à l'égard de l'Allemagne que, même dépendante de l'Allemagne, la France, des classes dirigeantes, peine accepté. Bien entendu, 40-44, c'est la phase continentale, on n'aime que les Allemands. Mais ce que les archives impitoyables permettent bien de démontrer, c'est que de 1940 à 1944, le rapport des forces change. Qui perçoit le plus tôt, le plus intelligemment, parce qu'il dispose de tous les éléments d'appréciation des changements de rapport de force. Qui perçoit ça beaucoup plus vite que le peuple à qui on ne raconte rien? ce sont les classes dirigeantes. Les classes dirigeantes françaises, elles ont compris dès le deuxième semestre 1940 que les États-Unis ne laisseraient pas l'Allemagne se goinfrer l'Europe toute seule. Ce que ces classes dirigeantes françaises ont cru à un moment, les États-Unis n'étaient pas prêts du tout à un partage des tâches. Bon, ben nous, on prend tout le reste et vous, vous vous mangez l'Europe. Urge comprise, pas du tout. Et là, les Français le comprennent. Le sommet de Vichy commence à comprendre que les États-Unis, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait dans la Première Guerre mondiale. Parce que les Allemands les gênent. En particulier, depuis 1934, où en plus, les Allemands viennent sur les brisées des Américains, y compris dans l'arrière-cour. En Amérique latine. Donc, à partir de 1940, on commence à faire attention, à nouveau très attention, à des États-Unis envers lesquels on a été très déférent pendant longtemps. Car il faut le rappeler, qui est-ce qui a décidé de tous les règlements d'après Première Guerre mondiale? Les États-Unis. Qui est-ce qui a décidé de la mort des réparations? Les États-Unis. Qui est-ce qui a régler les questions financières internationales et qui a été en mesure de réaliser le summum de l'habileté, c'est-à-dire à la fois casser les réparations, mais exiger le paiement des dettes interalliées. Et qu'est-ce que c'est que les dettes interalliées? C'est les dettes des Anglais, des Français et d'un certain nombre d'autres pays de l'Entente à l'égard des Américains. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est les États-Unis. Donc, après le petit trou relatif des années 30 dans les amitiés américaines, on renoue à partir de 40-41 avec ce qui sera la nouvelle Pax Americana, dont on ne doutera plus, parce qu'en 1918, on a pu penser que c'était une Pax Gallica et Britannica. Ça a été une Pax Americana. Quant à la Pax Americana, d'après mai 1945, elle est écrasante pour tout le monde. À partir de ce moment-là, la classe dirigeante française, elle est soumise à la double influence dominante, d'une part allemande, d'autre part américaine. Elle n'en est jamais sortie.
Alors on comprend bien qu'en ce début de millénaire, la grande bourgeoisie française soit inquiète, car même s'il a apparemment de beaux restes, l'empire états-unien se fissure.
Je ne suis pas prévisionniste, mais enfin, dès qu'on se renseigne un petit peu, dès qu'on sort de ce qui est devenu quelque chose qui fait penser à 38-40 dans la hargne contre les ennemis présumés ou désignés, dès qu'on sort de cette espèce de furie anti-chinoise ou russophobe, pire que pendant la guerre froide, on va regarder les données économiques. On mesure que tout ce qui a fait la grandeur des États-Unis, c'est-à-dire la supériorité économique, scientifique, écrasante, tout ça est en train de basculer, malgré de remarquables restes, je dirais, d'origine interne et d'origine externe. Le pillage des cerveaux, le fameux brain drain, il se poursuit. C'est-à-dire que la crise générale depuis les années 1970 continue à générer cette absorption monstrueuse par les États-Unis d'une partie des élites intellectuelles de l'ensemble du monde. Il faut voir à quel point ça a été essentiel dans l'ascension des GAFA. Les États-Unis ont encore une part qui est importante dans les brevets mondiaux. Le problème, aujourd'hui, la Chine représente 40% du dépôt des brevets mondiaux dans toutes les disciplines. On est à une phase de la crise qui s'aggrave de plus en plus. Et le fait que les uns cumulent des profits monstrueux et que les autres s'appauvrissent n'est qu'une des images de cette crise qui se déploie depuis les années 1970. Et on est entré depuis longtemps, évidemment, dans une période de tension qui fait penser à beaucoup d'égards à 1914 et à 1939, avec une différence notable. Les deux fois précédentes, l'impérialisme en crise est un impérialisme qui écrase tout le reste, qui n'a pas d'adversaire en face, qui est plein d'adversaires impérialistes. Mais aujourd'hui, face à l'impérialisme dominant, américains, soutenus mordicus par des Européens, des Australiens, des Néo-Zélandais, etc., est-ce qu'il y a face à eux quelque chose qui est en mesure de leur résister ou pas ? La Russie a subi des coups terribles. Il faut quand même mesurer, à une époque où on parle d'expansion russe, que la Russie a perdu une partie considérable de ce qui faisait l'Union soviétique. Elle n'a plus aucune des zones particulièrement riches de ses marches. Elle a perdu l'Asie centrale, elle a perdu le Caucase, l'ensemble de sa barrière occidentale, son bijou ukrainien, mais elle n'est pas totalement à terre. Et la Chine, évidemment, on peut toujours gloser sur l'impérialisme chinois, etc., ne se laissera pas dépouiller comme ça. Donc, oui, on est dans une situation aussi grave que 14 et 39, mais dans une configuration qu'on n'a jamais connue en 14 et en 39. Ça génère dans les pays impérialistes habitués à la maîtrise des choses une espèce de frénésie qui n'a rien à envier à la frénésie qui a précédé les guerres de 1914 et les guerres de 1939. Mais vouloir faire la guerre et n'être pas sûr de la gagner ou se dire qu'on n'est plus en mesure d'infliger aux faibles les coups qu'on leur a portés les deux précédentes fois, ça nous induit une conjoncture internationale tout à fait nouvelle. Je ne suis pas prévisionniste, mais ce que je peux analyser, c'est que la puissance économique étant en dernière instance déterminante, l'impérialisme n'est pas en bonne position dans la période actuelle, puisque sont actuellement établies des prévisions selon lesquelles la Chine sera au minimum en 2030 le premier producteur industriel du monde.
Sur le front intérieur, même si elle a tout fait pour occulter son histoire et son souvenir, la Commune de Paris fait toujours peur aux bourgeois.
Ben, la Commune continue à leur faire peur. On comprend bien l'inquiétude des classes dirigeantes. La tactique de la poigne, comme celle qui se dessine et qui, au contraire de tout ce qu'on nous a raconté ces dernières années, ressemble comme une sœur à la tactique qui a été employée dans les années 1930, même si aujourd'hui on ne peut pas prétendre remanier des institutions qui ont donné tout le pouvoir à la grande bourgeoisie. Son pouvoir n'est plus disputé. Mais on se retrouve dans une situation aussi verrouillée que dans les années 30, c'est-à-dire une situation de poigne imposée à une population largement démunie, privée de ses moyens de défense, avec des organisations détruites ou largement détruites, ce qui fait tout à fait penser à 1914, ce qui fait tout à fait penser à 1940, 38-40, à ceci près qu'en 1938-1940, les institutions de défense étaient abattues ou anéanties, mais qu'elles existaient et qu'elles allaient se déployer finalement très vite entre 1940 et 1944, nous sommes sur le plan intérieur dans une situation qui fait beaucoup penser à 1914 et avec un état de la crise qui fait penser à la bourgeoisie que des tremblements, des craquements monstrueux sont en train de se préparer. Et par conséquent, qui veut aujourd'hui comprendre la situation a grand intérêt à se documenter sur ce qui s'est passé entre 1890 et 1914, sur ce qui s'est passé dans les années 1930. La situation de défaite où se trouve aujourd'hui le peuple français ne veut pas dire du tout que les classes dirigeantes le considèrent comme quantité négligeable. Le peuple français continue à les obséder. Et il est logique qu'elles soient obsédées par un peuple français dont elle perçoit le degré de lassitude.
On l'a tué, à coups de chasse, à coups de mitrailleuse, et rouler avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Comme un faucheur rasant un pré, comme on abat les pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Acte de bandit, comptant sur le silence, achever les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisseler sous la porte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Les journalistes policiers, marchands de calomnies, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les maximes du camp, les Dumas, ont vomi leur eau forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier « Vive la commune !» Et ça prouve à tous les Judas si ça marche de la sorte.
Ils sentiront sous le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront sous le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Alors, puisqu'on évoque ce que la bourgeoisie d'aujourd'hui commémore, comme Napoléon Bonaparte, est-ce que la bourgeoisie ne commémore surtout pas, comme la Commune de Paris ? Et pour en revenir et en finir au sujet des trahisons de Pétain et de Bazaine, un détail, comme disait l'autre. En 2018, commémoration du centenaire de la première grande boucherie mondiale de 14-18, le banquier devenu président de la République a fait scandale quand il a insisté pour célébrer le maréchal Pétain. Macron a avancé que certes, si le Pétain des années 40-44 avait été un petit peu vilain et moyennement sympa avec les Juifs, par contre, le premier Pétain de 1917 avait été un formidable chef militaire qu'il convenait d'honorer, malgré la disgrâce qui frappe Pétain depuis son procès de 1945.
Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Et il faut... Mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens. Mon rôle est d'essayer d'expliquer, de porter des convictions. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué et que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire de la victoire et de la paix. La victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire.
À son simulacre de procès, Pétain a d'abord été jugé coupable de trahison, d'intelligence avec l'ennemi, condamné à mort. Et puis comme cette accusation de trahison était compromettante pour l'oligarchie collabo qui était restée en place à la Libération, on a glissé vers une accusation de simple collaboration. En 2018, Macron s'est donc battu pour célébrer un maréchal félon, frappé d'indignité nationale, et qui n'est plus maréchal depuis 45.
Non seulement Pétain n'est plus maréchal puisqu'il a été déchu, sa condamnation a porté aussi déchéance de son titre glorieux de maréchal, mais son titre glorieux de maréchal a été usurpé. J'ai tout à l'heure accordé une grande part à l'ouvrage de Brugère, Veni, Vidi, Vici, Brugère Raymond est le fils du général Brugère, qui a été, comme l'ensemble du haut état-major français, qui a été témoin de ce qu'était le véritable Pétain. Or, Pétain était un défaitiste notoire. D'abord, le haut état-major français ne s'était pas illustré entre 1914 et 1915, Pétain compris, sachant que la non-invasion de la France n'est pas due aux efforts de notre haut état-major, mais au fameux rouleau compresseur russe. C'est pas les taxis de la Marne hein, qui ont sauvé la France. C'est évidemment le fait que la moitié des divisions allemandes ont dû combattre contre les Russes. Et c'est ça qui a sauvé la France de l'invasion totale en septembre 1914. Ça n'est pas autre chose. Et d'une, et de deux. Il était absolument notoire, et le livre de Brugère le démontre, et toute une série d'interventions de Joffre, Foch, etc., qui haïssaient Pétain. Il était caractérisé, y compris en 1917, lorsque on ne l'a pas chargé simplement de réaliser la victoire, lorsqu'on l'a mandaté pour aller écraser dans le sang les mutineries des soldats, il était à l'époque ouvertement défaitiste. Il est de ceux qui ne voulaient pas combattre en 1918. Et ça a été dit et répété. Il se trouve que j'avais un étudiant qui m'avait fait un très bon mémoire sur l'armée française, qui avait montré que le grand futur complice de Pétain dans le putsch contre la République, c'est-à-dire Weygand, qui avait eu à s'occuper beaucoup de la Pologne, puisqu'il est un des responsables de la contre-offensive polonaise lorsque la Pologne a un peu rapidement et inconsidérément attaqué la Russie en 1920 et a failli se prendre une gamelle retentissante. C'est Weygand qui est devenu le deuxième personnage de la cagoule militaire ensuite, qui a été délégué pour apporter les forces françaises à la Pologne. Ce qu'avait montré le mémoire de mon étudiant, c'est que contre les Polonais, Weygand soutenait les Allemands. Pourquoi ? Parce que les Polonais étaient un peu gigoteurs à l'époque, et notamment les mineurs polonais, qui s'agitaient beaucoup en 1918. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la frontière de la Tchécoslovaquie a inclus le territoire de Teschen, parce que Schneider, qui avait besoin du bassin charbonnier, du bassin métallurgique, a trouvé que c'était mieux de le confier à la Tchécoslovaquie, qui était un pays plus sûr, qu'à la Pologne agitée. Donc, et Pétain et Weygand, pendant la guerre et après la guerre, démontrent à quel point les données intérieures leur sont plus précieuses que les données de défense des frontières. Il faut se procurer cet ouvrage de Brugère qui démontre d'ailleurs ce que nous avons perdu en plusieurs décennies à l'aveuglement de nos propres classes dirigeantes. Ça doit être ignorance de ma part, je ne vois pas par les temps qui courent, ou alors ça en fait de véritables parias, de gens qui, en conservant leurs attributions, puissent faire aujourd'hui une analyse comme celle de Brugère. Il y en a, mais ils ont perdu tous leurs postes.
Donc quand l'homme de la grande bourgeoisie, le banquier président Macron, insiste pour commémorer Pétain, c'est pas juste une étourderie de sa part ou un manque de connaissances historiques.
Ah non, c'est un choix. C'est le choix d'exalter la valeur d'un maréchal qui ne l'était plus et qui avait été désigné par ses pairs en 1916-1918 comme un défaitiste impénitent. C'est une manœuvre politique qui s'appuie sur une escroquerie historique, ce qui est fort commun.
Que se termine cet entretien avec Annie Lacroix-Riss, qu'on remercie. Conversation à retrouver sur notre site polémix-et-la-voix-off.com avant le prochain chapitre de cette saga populaire autour de la Commune de Paris qui fait toujours peur aux puissants d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur.